Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Les dirigeants européens sont en ce moment réunis à Bruxelles. Un sommet de 2 jours censé préparer l'après-Brexit. Demain, vendredi, c'est sans Theresa May, la première ministre britannique, que les 27 donc, vont se consacrer à la préparation de la déclaration de Rome qu'ils prévoient de publier pour les 60 ans du traité. Ces 60 ans seront célébrés dans la capitale italienne le 25 mai prochain. Ce texte solennel doit montrer que l'Union européenne restera unie après le Brexit. Les 27 y parviendront-ils? Y a-t-il réellement matière à consensus sur le devenir de l'Union européenne? Eh bien, c'est tout l'enjeu. Et pour l'instant, il y a un petit peu 2 camps qui se dessinent. D'un côté, le concept d'une Europe à plusieurs vitesses, 2 vitesses essentiellement, soutenues par Paris et Berlin, qui sont désireux notamment de renforcer la défense européenne. Et puis de l'autre, eh bien, de plus petits pays, inquiets, voire hostiles, notamment à une politique commune en matière migratoire. Alors, une Europe à plusieurs vitesses, deux vitesses est-elle la solution? C'est notre sujet du jour. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio 2 invités. Yves Bertoncini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors, président du Mouvement Européen France. En face de vous, Jean-Pierre Molny, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Alors ce mardi, à l'initiative de la France, c'était il y a 2 jours, les dirigeants des 4 pays les plus peuplés de l'Union, l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie, se sont retrouvés en mini-sommet à Versailles. À l'issue de leur entretien, Angela Merkel a expliqué qu'il fallait avoir le courage d'accepter que certains aillent plus vite. Une idée reprise, vous allez l'entendre, par François Hollande qui a plaidé pour une Europe unie mais à plusieurs vitesses.
L'unité n'est pas l'uniformité. Et c'est la raison pour laquelle je plaide pour qu'il y ait de nouvelles formes de coopération, pour de nouveaux projets, ce qu'on appelle les coopérations différenciées, qui fassent que quelques pays puissent aller plus vite, puissent aller plus loin dans des domaines comme la défense, comme la zone euro à travers l'approfondissement de l'union économique et monétaire, comme l'harmonisation fiscale et sociale, comme la culture, que nous puissions aller plus vite et plus fort sans que d'autres en soient écartés, mais sans que d'autres ne puissent s'y opposer.
Alors Jean-Pierre Monnier, votre réaction à cette déclaration, hein, ça, on le sent monter depuis quelques semaines, depuis quelques mois, une Europe à plusieurs vitesses, c'est la solution pour vous ?
Il y a une question déjà structurelle sur le long terme, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut avoir une seule Europe avec 28 et maintenant 27 États membres? Il est certain que déjà le Brexit a été un premier choc et s'est posé la question de savoir comment ressouder l'Union européenne. Et peut-être qu'effectivement une des manières de ressouder l'Union européenne, ce serait d'avoir une sorte de première Europe où on resterait grosso modo dans la situation existante avec ce qu'on pourrait appeler une zone de libre-échange plus, c'est-à-dire pas uniquement quand même une zone de libre-échange, un petit peu plus, et puis effectivement des politiques communes où certains États décideraient d'aller beaucoup plus loin, avec une question qui est quand même pas complètement évidente, qui est qu'il faut garder, il faudrait garder la cohésion, je ne veux pas dire la cohérence, mais plutôt la cohésion entre ce qui serait la première Europe et la deuxième Europe. Ce qui est un petit peu expliqué d'ailleurs François Hollande, c'est-à-dire le fait qu'on ne met pas en dehors ceux qui resteraient dans ce qui pourrait être le premier cercle.
Parce qu'évidemment, la première réaction à cette idée, c'est un petit peu, est-ce que c'est pas la fin de l'Europe telle qu'on l'a connue, telle qu'on l'a vendue aux Européens, aux citoyens européens, ou en tout cas un vrai tournant, c'est la fin du tous ensemble au même rythme finalement?
Mais en réalité, si on regarde l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas tous ensemble au même rythme déjà. La zone euro, c'est déjà un cercle particulier. Vous parliez de la défense commune. En réalité, il existe déjà des petites zones où, en matière de défense, on fait plus. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, notamment pour les auditeurs, mais
on va y venir hein, sur quel secteur est-ce qu'on pourrait se concentrer et d'où on part.
Il existe déjà des coopérations qu'on pourrait qualifier de renforcées qui ne disent pas leur nom.
Alors, Yves Bertoncini, est-ce que vous partagez l'analyse et les propositions aujourd'hui de Jean-Pierre Molny?
Oui, mais je crois qu'il faut d'abord partir d'un point de vue global. Les Européens dans le monde aujourd'hui, 7% de la population, mondiale, bientôt 6 quand les Britanniques nous auront quittés, dans 2 ans, 2-3 ans, ils ont besoin de s'unir. Donc le point de départ global, ça doit d'abord être ça. L'union fait la force face au changement climatique, face au terrorisme islamiste, face à la finance dérégulée, face à Vladimir Poutine, face à Trump. Et donc, ce que je veux dire, c'est que d'abord, partons de l'idée de s'unir. Ensuite, évidemment, si les 28 démocraties nationales ne le souhaitent pas,
l'Union, ce qui est un petit peu le cas en ce moment quand même, on les sent.
L'Union européenne n'est pas l'Union soviétique. Il faut que les États membres, les peuples soient d'accord pour s'engager dans une action ou une coopération. Eh bien, mettons en place ce qui existe déjà, je suis d'accord. C'est-à-dire l'Europe à géométrie variable. L'Europe est à géométrie variable aujourd'hui. La zone euro, c'est 19. L'espace Schengen, c'est 22 États membres de l'Union européenne. Le grand marché, c'est 28. L'Europe à géométrie variable, elle a besoin d'aller à pleine vitesse, mais à plusieurs niveaux. Je crois que ce qui est très important dans le maniement des concepts, quand on parle d'Europe à plusieurs vitesses, c'est de ne pas employer une expression qui est excluante, qui est clivante. Qui a envie d'aller doucement ? En fait, il faut aujourd'hui en Europe aller à pleine vitesse, mais à plusieurs niveaux. Il faut aller plus vite, par exemple, face au changement climatique, mais ça se joue au niveau de l'Union européenne à 28. Il faut aller plus vite en matière migratoire et d'asile, et ça peut se jouer au niveau de l'espace Schengen à 22. Il faut aller plus vite en termes d'harmonisation fiscale, et ça peut davantage se jouer au niveau de la zone euro à 19. Mmh. Et même, il y a déjà, et effectivement, des coopérations à plus petite échelle aujourd'hui, les coopérations renforcées. Quand on a voulu, je prends juste un exemple, faire une taxe sur les transactions financières, il y a seulement 11 pays qui ont dit d'accord. Quand on a voulu essayer de lancer une initiative sur le droit du divorce, il n'y en a que 16. Donc naturellement qu'on doit, comme l'a dit François Hollande, qui d'ailleurs n'emploie pas le mot Europe à plusieurs vitesses, il dit Europe différenciée. Bien sûr qu'il faut une Europe différenciée qui ne soit pas uniformité.
Alors, donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que ce ne seront pas toujours les mêmes qui seront dans le groupe un peu en avance et toujours les mêmes qui seront dans le deuxième rayon. On pourrait être en avance sur la défense, moins en avance, par exemple, sur je ne sais pas moi, l'harmonisation fiscale. C'est comme ça que vous voyez les choses ? Parce que, évidemment, là, ce qu'on a envie de vous rétorquer, c'est que finalement, est-ce que ça ne va pas encore plus complexifier les procédures aujourd'hui ? Et c'est l'une des critiques qu'on entend à l'égard de l'Union européenne.
C'est le prix à payer. Deux choses. Premièrement, en effet, ça complexifie les choses. Parce que si aujourd'hui, on essaye de faire une carte de qui fait quoi en Europe, pas que dans l'Union européenne, parce qu'il y a des coopérations à géométrie variable en dehors de l'Union européenne. Par exemple, l'Agence spatiale européenne, c'est pas Bruxelles, c'est pas l'Europe de Bruxelles. L'Agence spatiale européenne, il y a 20 États membres là-dedans. Si vous regardez l'Agence européenne de défense, il y en a un peu davantage, il y en a 26. Mais donc ça compose une constellation où il est très difficile de s'y retrouver. Mais c'est le prix du respect des volontés démocratiques et des souverainetés nationales. On ne force personne à avancer si les peuples ne le souhaitent pas. Ceci dit, deuxième point, on voit bien que tout cela, au fond du fond, ensuite compose une forme de noyau dur qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire un groupe de pays qu'on retrouve pratiquement partout, dans toutes les coopérations les plus avancées. Et donc, schématiquement, la France, l'Allemagne, ils sont toujours. Le Benelux y est extrêmement, extrêmement, extrêmement fréquemment, de même que l'Italie. Les 6 pays fondateurs, ceux qui ont signé le traité de Rome il y a 60 ans. Et puis, s'agrège à ça beaucoup d'autres pays qui peuvent venir. Le Portugal, l'Espagne sont souvent très proches. Donc, ça compose malgré tout, et y compris aux yeux des opinions publiques, une forme de noyau dur qui ne dit pas son nom, une forme de premier cercle, comme le disait Jean-Pierre Molny.
Alors Jean-Pierre Molny, on parle beaucoup, on l'a entendu aussi, de cette Europe de la défense qui pourrait être finalement une de ces Europes différenciées et dont on nous dit que ce serait une priorité. Alors pourquoi est-ce que ce serait une priorité ? Ou peut-être avant, êtes-vous d'accord avec cette analyse ?
Bah, d'abord, c'est une priorité pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on est dans une situation stratégique à l'heure actuelle où, pour la première fois depuis longtemps, on est face à des menaces qui sont parfois nouvelles, le terrorisme par exemple, parce que ça, on n'avait pas ça il y a, disons, on va dire 20-25 ans. On a une Russie qui est, on va dire, inquiétante. Et on a des questions qui se posent qui ne peuvent pas être traitées au niveau national. Voilà. Et en plus, On est dans une situation au niveau européen où les armées...
Pardon, mais les souverainistes vous disent que justement ces questions-là doivent être traitées au niveau national et pas au niveau européen. Je pense par exemple au terrorisme où certains nous disent il faut que la police, l'armée puisse gérer ce qui se passe sur le territoire français.
Ben non, j'ai envie de dire si on gère justement à partir des frontières, mais des frontières par exemple, des frontières de Schengen ou des frontières de pays qui auront intégré, mieux intégré leur politique de défense, on sera mieux protégé que si on se protégeait qu'au seul niveau national. C'est une erreur majeure. C'est les coopérations qui sont importantes. Quand on a vu notamment la question de l'attentat à Berlin et de la personne effectivement après qu'elle est en France et en Italie, la question c'est pas de rétablir des frontières, c'est de coopérer entre les services de renseignement. À partir du moment où on coopérera entre les services de renseignement, on aura une protection qui sera bien bien plus efficace. La deuxième raison quand même pour laquelle il faut véritablement vraiment qu'on se prenne en main et l'union c'est la force, c'est que on restera pas éternellement avec un ami américain qui nous protège. Et en plus, nos intérêts avec cet ami américain sont pas nécessairement les mêmes. Et on a quelqu'un qui est en poste aujourd'hui à Washington, qui est quelqu'un qui est quand même plutôt imprévisible, même s'il y a une administration derrière qui essaiera de le réguler. Donc on a intérêt à s'entendre.
Donc ça c'est Donald Trump, évidemment. Yves Bertoncini, vous vouliez réagir?
Oui, le domaine de la sécurité collective au sens large, c'est-à-dire pas seulement défense, effectivement, lutte antiterrorisme, coopération policière-judiciaire, c'est un bon exemple qui illustre mon propos précédent. Il faut aller plus vite. Pourquoi il faut aller plus vite? Parce que le monde est dangereux, le voisinage est dangereux, Poutine est dangereux. L'État islamique nous tue sur notre territoire. Il y a un chaos en Syrie, il y a un chaos en Libye. Il faut donc faire face. L'Europe de la défense, quand elle a été lancée, elle ne pouvait pas exister. Il n'y avait pas de menace. Pourquoi se défendre? Il n'y avait pas d'Europe, parce que c'était l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui, face à ces menaces qui existent, y a-t-il encore une Alliance Atlantique? Oui, il la faut, mais c'est vrai qu'on a des doutes avec M. Trump d'un côté et M. Erdogan de l'autre. Donc il faut avancer plus vite. Ça, c'est le point de départ. Si c'est possible, à 28, c'est parfait. Si ce n'est pas possible, eh bien, il faudra le faire un tout petit peu moins. Autre illustration, la lutte antiterroriste. Vous dites, que faut-il faire? Ne faut-il pas se défendre sur notre sol national? Oui, bien sûr qu'il faut se défendre face aux terroristes.
C'est pas moi qui le dis, je me fais le porte-voix de certains qui critiquent.
Il faut évidemment débusquer les terroristes, les mettre hors d'état de nuire. Mais pour ça, il faut les frapper à la source. Donc premièrement, les terroristes qui ont frappé en Europe, ils sont commandés depuis la zone irako-syrienne. Alors, si on veut y aller tout seul dans la zone irako-syrienne, allons-y. Mais sinon, il vaudrait peut-être mieux y aller à plusieurs. L'union fait la force. Coopération policière, judiciaire. Et puis surtout, comme l'a très bien dit Jean-Pierre Molny, on n'arrête pas les terroristes aux frontières. Moi, je ne connais pas d'exemple de terroristes arrêtés aux frontières. Face au terrorisme, il faut des espions. Il ne faut pas des plantons. Les plantons qui seraient aux frontières, ils embêteraient tous les honnêtes gens qui aujourd'hui ont besoin de circuler pour aller travailler dans un pays à côté ou pour aller faire leurs courses ou que sais-je encore, sans attraper un seul terroriste. Un terroriste, on l'attrape quand il n'est pas sur ses gardes. Quand il approche une frontière, il est sur ses gardes. Et donc, il faut pour ça effectivement de la coopération policière, judiciaire, des échanges de renseignements. Mais c'est justement quelque chose qu'il est peut-être difficile à faire à 28, à 27, parce qu'il y a des enjeux de confiance quand on échange des renseignements. Et c'est donc peut-être aussi pour cette raison qu'en effet, ça va se faire dans le cadre d'une coopération à géométrie variable.
Alors, j'entends ce que vous dites et vous êtes d'accord sur la priorité de l'Europe de la défense. Alors, ma question, c'est est-ce que répondre cette priorité à ce que disent certaines opinions européennes aujourd'hui, aux votes qui sont anti-européens qui montent, est-ce que c'est vraiment la bonne réponse? Est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de parler de la politique économique, de la politique sociale aussi de l'Europe? Est-ce que la priorité, elle n'est pas ailleurs?
L'un n'exclut pas l'autre.
C'est pour l'instant, la réponse politique est quand même essentiellement dirigée de ce côté-là.
Il faut que le politique peut-être fasse attention, effectivement, sur ces questions-là. L'un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce que... il faut faire plus en matière de défense. Et en plus, on est dans un contexte à l'heure actuelle où, je dirais, on a une fenêtre de tir pour le faire. Il y a vraiment un memento qui est favorable sur ces questions-là.
Sauf qu'il y a quand même des élections, des échéances électorales importantes qui arrivent dans les prochains mois.
Effectivement, en France, aux Pays-Bas. Je comprends, mais une fois qu'on normalement, enfin, si tout se passe bien, j'ai envie de dire, une fois qu'on aura passé ces élections, on pourra avancer. Mais cela n'exclut pas effectivement qu'on puisse travailler sur les questions économiques et régler. Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'ailleurs de régler, mais on a un problème quand même globalement dans nos sociétés. Qui est un problème d'accroissement des inégalités, où il faut effectivement trouver une réponse. Et la réponse, c'est une réponse politique. Et ça, effectivement, on n'est plus dans une situation où on peut agir seul au niveau national, et il faut trouver des réponses au niveau européen.
Vous êtes d'accord, Yves Bertoncini, quand Jean-Pierre Monnier nous dit que finalement il faut que le politique fasse attention, parce qu'effectivement parler aujourd'hui Europe de la défense, approfondissement européen, alors peut-être à moins sur certains secteurs, c'est pas nécessairement répondre aux critiques sur l'austérité, par exemple, qui émanent aujourd'hui des opinions européennes?
Certes, oui, sauf que l'aspiration à la sécurité collective, c'est quand même une aspiration largement partagée par les populations du continent européen. Hein. Donc, c'est quand même pas une petite demande, l'idée d'être en sécurité.
Oui, mais la priorité numéro un aujourd'hui des Français, par exemple, c'est le chômage. Alors, c'est vrai que répondre Europe de la défense,
c'est intéressant. De la même façon que j'ai dit qu'il fallait plusieurs agendas positifs, hein. Il faut un agenda positif au niveau de l'Union européenne à 28, un autre au niveau de l'espace Schengen, un autre au niveau de la zone euro. La grande erreur, ça serait de dire il n'y a plus qu'une seule chose qu'on va faire, c'est dans le cadre de la zone euro, que nous et puis les autres qui se débrouillent. Ça bloquera tout, hein, parce que les autres se sentiront exclus. De la même façon, donc, il faut un agenda positif à plusieurs niveaux. Il faut évidemment un agenda qui ne soit pas monothématique. À Bratislava, au moment où les États membres se sont réunis pour dire qu'eux ne quitteraient pas l'Union européenne comme les Britanniques venaient de décider de le faire. Il y a eu trois registres. Il y a évidemment eu le registre de la sécurité, il y a eu le registre des migrations, et puis le troisième, c'était la croissance, l'investissement. Mais il y a quand même une différence de nature. En matière européenne, quand on regarde l'économie, le social, le budgétaire, Bruxelles, c'est pas le Père Noël non plus. Il y a de très grandes différences entre les pays membres. Beaucoup de décisions doivent être prises au niveau national. S'il y a de telles différences de taux de chômage au sein de la même Union européenne et au sein de la même zone euro, c'est quand même bien que ça se joue au niveau national. Le défaut de Bruxelles, en revanche, c'est que parfois, certes, ce n'est pas le Père Noël, mais c'est le Père Fouettard. Et donc, oui, il est mal perçu pour ça. Mais quand vous dites trop d'austérité, il se trouve que dans la crise de la zone euro, il y a beaucoup de peuples qui ont trouvé qu'au contraire, c'était trop de solidarité, qu'il n'aurait pas fallu aider comme ça les Irlandais ou les Grecs. Donc, c'est compliqué parce que les peuples n'ont pas tous la même approche sur un registre comme celui-ci, économique, social, budgétaire. Même chose en matière sociale. Si vous demandez aux Suédois d'en faire plus, ils vous disent non, nous tout va très bien en matière sociale, que l'Europe ne vienne pas s'en mêler. En revanche, d'un mot, sur la sécurité collective, il y a quand même une idée assez basique que l'Union fait la force et que donc si les Européens sont capables de s'unir, eh bien ça peut endiguer le réflexe de retour aux bonnes vieilles frontières nationales. C'est illusoire, mais c'est tentant.
Alors, sauf qu'on voit quand même qu'il y a de grands contrastes en Europe. Jean-Pierre Molny, en un mot, il nous reste une minute, mais est-ce que ce projet d'Europe différenciée, pour reprendre le mot de François Hollande, ne risque pas de creuser le fossé qui existe déjà entre des pays plus déterminés à plus d'Europe et des pays plus déterminés à moins d'Europe aujourd'hui?
Tout dépend comment on le présente. Si on le présente comme quelque chose où, j'ai envie de dire, chaque pays trouvera sa place dans l'Union européenne, et si, encore une fois, on ne crée pas des frontières dans cette Europe différenciée entre ceux qui sont dans un certain niveau et ceux qui sont à un autre niveau, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ait des oppositions. Encore une fois, on a créé déjà des différenciations sans qu'on dise... ça ne dit ce nom.
Bon, on restera sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors, président du Mouvement européen France. Merci également à Valentin Vanner, à Florence Ponce. On se retrouve lundi pour un nouveau débat.